Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 16 mai, la visite à Lyon de Christophe Béchu. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, il vient à Brignais aujourd'hui, nous verrons pourquoi dans cette édition. Bruno Bernard présentera le tracé du futur tramway express de l'Ouest lyonnais au vote du conseil d'administration du Citral aujourd'hui. La commune d'Oulin, Pierre Bénite, a présenté hier sa nouvelle place Anatole France, un ancien parking devenu esplanade piétonne et végétalisée. Reportage avec Maëva Martel dans cette édition. Nous parlerons également de la reprise de Maison Le Jabi, et puis le Secours catholique du Rhône et la Maison Sésame pour accueillir les migrants. Maison Sésame qui est devenue aujourd'hui un véritable tiers-lieu. Explication et reportage dans cette édition.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, vient à Brignais ce jeudi afin de signer le volet mobilité du contrat de plan État-Région avec Laurent Wauquiez. L'État va investir 690 millions d'euros pour les transports d'Auvergne-Rhône-Alpes d'ici à 2027. La région Auvergne-Rhône-Alpes et l'État ont réussi à trouver un terrain d'entente. 300 millions d'euros pour les lignes ferroviaires existantes, y compris les plus petites, et le RER métropolitain, 147 millions. Les métropoles de Lyon, Chambéry, Clermont-Ferrand et Grenoble s'inquiètent toutefois d'un potentiel manque de crédit alloué à la création des RER métropolitains. Bruno Bernard présentera, lui, le tracé du futur tramway express de l'Ouest lyonnais, le fameux TEOL, au vote du conseil d'administration de Citral Mobilité. Ce jeudi, Pascal Charmeau, le maire de Tassin, est toujours vent debout contre ce projet. Il juge le tracé inacceptable, avec des conséquences importantes sur le foncier. Une vingtaine d'expropriations sont prévues sur la commune Cossu de l'Ouest lyonnais pour permettre à TEOL d'arriver à Alaï. Le tramway express de l'Ouest lyonnais partira de Confluence pour aller jusqu'à l'étoile d'Alaï, et empruntera à Lyon les rails du tramway T2 qui reliera ainsi directement Saint-Priest et Alaï, un projet d'un coût de 800 millions d'euros. La commune d'Oulin, Pierre Bénite, peut se targuer des effets bénéfiques de l'arrivée du métro, un rapprochement avec le centre de Lyon grâce au prolongement de la ligne B, mais aussi de nouveaux espaces publics avec en particulier la nouvelle place Anatole France. L'ancien parking a laissé la place à une esplanade piétonne et végétalisée. À Oulin-Centre, 8000 m2 d'espaces publics ont été réaménagés. Notre journaliste Maëva Martel est allée se rendre compte sur place.
La place Anatole France est méconnaissable. 1300 m2 d'espace vert recouvrent maintenant l'ancien parking et la place du marché. Après 5 années de travaux et 3,3 millions d'euros investis, ce nouveau projet est enfin terminé. Jean-Louis Claude, adjoint à la mairie d'Oulin chargé de la voirie et de la mobilité, ne cache pas son enthousiasme.
Je trouve que c'était une réussite totale. C'est une réussite totale et c'est la preuve qu'une collaboration entre les agents de la ville d'Oulin, qui ont été extrêmement présents sur ce projet-là, et la métropole, peut donner, contrairement à ce que certains peuvent penser, des très bons résultats.
Les enfants s'amusent déjà sur la place. Son esthétisme est apprécié, mais là n'est pas le seul enjeu. Anne-Sophie Périnel, chef de projet de la métropole de Lyon, évoque un aménagement réfléchi pour répondre aux enjeux climatiques.
Alors, le chantier en lui-même a démarré début janvier 2023 et s'est achevé par les dernières plantations en janvier 2024. Dernières plantations et dernières implantations de mobilier. Aujourd'hui, on a des espaces qui ont été désimperméabilisés, une gestion des eaux pluviales avec la création de nous pour gérer les eaux pluviales en infiltration et un traitement avec des revêtements clairs au sol pour permettre d'abaisser cet effet d'îlot de chaleur.
Ces travaux de la place font suite à la prolongation du métro B. Pour Bruno Bernard, président du conseil de la métropole de Lyon, il était aussi nécessaire de réaménager toute la zone autour de la nouvelle bouche.
On aménage le métro, qu'on crée un nouveau pôle métro, c'était important de réaménager. Et ça a été d'ailleurs compliqué, ça a été long. Les travaux métro ont duré longtemps, il y a un impact fort sur la place pour les habitants, pour les commerçants qui ont dû être patients. Et je les remercie d'avoir dû supporter ces travaux. Mais aujourd'hui, le résultat est là et c'était un vrai plus pour tout le monde.
Un vrai plus, mais pas pour tout le monde. Ce commerçant qui tient un bar familial connaît maintenant des difficultés suite à une erreur d'aménagement.
Il n'y a plus de terrasse, il n'y a rien. Là-bas, il y a des terrasses, là, il n'y a rien.
Et ce n'est pas la fin des travaux puisque les voies lyonnaises, futures pistes cyclables dans l'agglomération, devraient bientôt voir le jour. Ce sujet a d'ailleurs provoqué des tensions entre la métropole et le maire d'Oulin, Pierre Bénite, Jérôme Mauroge. Les deux parties ont trouvé un accord selon Bruno Bernard.
Il y a eu trois procédures de la ville d'Oulin
sur cette question. Trois procédures perdues. Donc c'est de l'argent public gaspillé, c'est du temps perdu. Et donc c'est pas une bonne méthode de discussion. Il faut discuter sereinement. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes points de vue. C'est légitime. Il y a des dossiers très compliqués. C'est le cas notamment d'un grand Doulin, qui est une artère essentielle pour la ville d'Oulin, commerçante. Et donc quand on la touche, c'est logique que ça soit difficile. C'est pour ça qu'on a proposé une méthode innovante, d'avoir plusieurs expérimentations, de les faire et après seulement de décider ensemble d'une solution possible. Donc on a vraiment ouvert tout le champ du possible. On a retiré le scénario qui était préconisé par la métropole de Lyon initialement. Donc il est temps maintenant de regarder, de tester, et nous verrons après ensemble qu'est-ce qu'il est possible de faire. On s'est vu au mois de février pour se mettre d'accord sur une procédure et sur une expérimentation.
En attendant l'arrivée des pistes cyclables, les Oulinois et les Oulinoises peuvent tout de même profiter de leur nouvelle place à pied.
Merci Maëva. Après le décès de deux agents mardi matin en Normandie au cours de la violente évasion d'un détenu lors d'une extraction, la maison d'arrêt de Corba fait l'objet d'un blocage total, estiment les syndicats. 150 agents pénitentiaires se sont en tout cas rassemblés hier matin devant la maison d'arrêt. Le drame normand aurait pu arriver n'importe où en France, expliquent les agents. Une opération prison morte a également été menée à la maison d'arrêt de Villefranche, à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Mézieux. Les parloirs ont été empêchés et les repas sont pris en cellule et pas en commun. Des unités hospitalières dédiées aux détenus ont également été bloquées hier. Les syndicats CGT et Sud du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu appellent à manifester devant l'hôpital psychiatrique ce jeudi à la mi-journée. Objectif, demander des moyens supplémentaires pour les soins et notamment des revalorisations salariales. Une réunion sur les négociations annuelles obligatoires doit se tenir dans le même temps. Le manque de moyens humains et financiers ne sont plus supportables et pousse le personnel à partir, estiment les syndicats. Maison Le Jabi, le tribunal de commerce de Lyon a choisi l'offre de reprise déposée par une société composée du groupe indonésien Mirae et de la société française GC Consult. 24 salariés vont être repris sur 49. Le Jabi, qui a lancé ses premiers soutiens-gorge en 1930, s'était hissé à la fin des années 60 à la deuxième place de la lingerie française. Mais l'entreprise basée à Rieux avait été placée en liquidation judiciaire une première fois en 2011, avant une succession de rachats ces dernières années. La direction interdépartementale des routes centre-est fait marche arrière dans le sens nord-sud de la circulation sur la 7 au sud de l'agglomération lyonnaise. La limitation de vitesse sera rehaussée à 70 km/h, une zone qui débute 3 km au nord de l'échangeur de Ternay et s'étend sur 8 km vers le nord jusqu'à l'échangeur avec le boulevard urbain sud au niveau de Fézin. Une mesure qui prend effet à compter de mardi prochain. La vitesse maximale autorisée sur la voie réservée au covoiturage et les transports en commun sera donc de 70 km/h. Les changements de voie était devenu plus délicat et source d'accident selon la DIR Centre-Est.
Lyon Demain, médias agitateurs d'idées.
Le Secours catholique du Rhône a créé la maison Sésame pour accueillir les migrants. En 2021, cette structure s'est installée à Villeurbanne, dans le quartier Grand Clément, avec la volonté d'aller toujours plus loin, afin d'intégrer au mieux ces personnes venues d'ailleurs. Ouverte aux personnes isolées, majeures et en précarité d'hébergement, la maison Sésame se veut être un véritable lieu d'accueil et d'accompagnement, notamment dans l'accès aux droits. Mais pas seulement. Maison Sésame s'est transformée en un véritable tiers-lieu, dans lequel les exilés se sentent écoutés et épaulés. Nous avons rencontré John Carr, salarié référent de la Maison Sésame.
En fait, la Maison Sésame est un lieu du Secours catholique du Rhône qui fait partie d'un réseau plus large de 32 équipes locales. C'est un lieu qui accueille des personnes en situation d'exil depuis maintenant une petite quarantaine d'années, donc de personnes qui sont en procédure de demande d'asile. Donc ils sont sur un parcours assez complexe, voilà, je ne vous apprends rien compte tenu de l'actualité, et qui accompagne donc une équipe de bénévoles qui soutient dans les démarches administratives, beaucoup d'écoute, donc des personnes qui elles sont en situation beaucoup de détresse, avec de l'accompagnement accès aux droits. Donc tout ce qui est accompagnement dans la procédure justement de demande d'asile, lien avec des avocats, de recours, etc. Et puis une équipe de bénévoles qui travaille sur l'apprentissage du français. Donc tout ce qui permet finalement, au-delà de la recherche des papiers, d'être dans une démarche d'intégration par la langue et aussi par le numérique. Une équipe de bénévoles qui travaille sur l'inclusion numérique. Beaucoup de démarches malheureusement se font en dématérialisation, donc un vrai accompagnement à faire pour outiller ces personnes. Il y a d'autres activités qui elles sont beaucoup plus sur le lien social, rompre l'isolement. Alors Sésame, voilà, je fais une petite parenthèse, la maison Sésame qui porte un peu son origine sur la Sésame, ouvre-toi, donc une maison qui finalement accueille tout un chacun. Et puis la graine de Sésame qui fait référence au talent des uns et des autres. Donc ce qui veut dire qu'on a finalement un peu tous un rôle à jouer et surtout une richesse à apporter à cette société.
Pourquoi il fallait un tiers-lieu pour réaliser cette mission?
Alors en fait, ce tiers-lieu, c'est assez récent. Donc ça fait un an et demi qu'on a déménagé dans le quartier de Villeurbanne Grand Clément. Et au moment de la transition de ce déménagement, donc il y a un an et demi, en lien avec les personnes exilées, notre projet de délégation et puis un certain nombre de partenaires, on a essayé de voir finalement comment est-ce qu'on pouvait profiter de ce déménagement pour donner une autre dimension à ce lieu. Et ce qui nous est venu de manière assez frappante, c'est que pour une bonne intégration, il ne suffit pas d'avoir ses papiers ou de parler le français ou encore d'avoir une bonne maîtrise de l'outil informatique, mais c'est de comprendre la société dans laquelle ces personnes arrivent et donc comment finalement on permet la rencontre à travers un réseau, à travers un territoire, à travers des habitants. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers cette dimension de tiers-lieu de la Maison Sésame qu'on veut lui donner. C'est comment est-ce qu'on peut s'ancrer sur le territoire, permettre aux personnes qui vivent l'exil d'être en lien avec des habitants. Et puis aussi, c'est intéressant, je trouve, surtout dans cette société qui évolue, d'être dans un travail autour du changement de regard. Comment, finalement, la migration peut être un vrai vecteur d'apprentissage de la rencontre de l'autre.
C'est-à-dire que ce réseau, il va bien au-delà de simples travailleurs sociaux?
Ah, complètement, oui. Et c'est assez intéressant parce que quand on présente, par exemple, l'accès au droit, on peut être tenté de dire qu'on accompagne au niveau administratif, mais on se rend compte que les personnes qui viennent, certes, elles viennent chercher un coup de pouce administratif, mais elles viennent aussi chercher une oreille, une attention, et ça passe par une présence pleine et entière des bénévoles, notamment qui œuvrent chaque jour à la Maison Sésame. Et puis voilà, la rencontre, elle va au-delà du simple fait d'obtenir des papiers, qui est certes très important, mais qui n'est pas le seul levier d'intégration.
Oui, mais ça passe notamment par le numérique, par la cuisine, des choses comme ça.
Alors la cuisine, ça tombe bien que vous mettiez l'accent là-dessus. Il y a un an, tout juste, on a ouvert une cuisine. Donc dans ce lieu qui fait 260 mètres carrés, on s'est dit au Secours Catholique, on a l'expérience dans certains lieux de ce que peut apporter la cuisine. Dans ce nouveau lieu, mettons l'accent sur la cuisine. Donc on a créé ce lieu, cette cuisine. Et qui nous permet maintenant depuis un an, chaque mois, d'offrir un temps de rencontre autour de la cuisine qui s'appelle Cuisinons Ensemble. Le principe, il est celui-ci. Donc on est 23 à peu près participants. Je fais une petite parenthèse, à la Maison Sésame, on a fait le calcul, 49 nationalités rencontrées depuis 2 ans. Donc c'est assez incroyable, on voyage et la cuisine permet un voyage à la fois des cultures, mais aussi un voyage culinaire. Et donc chaque mois, on propose qu'il y ait un chef sucré, un chef salé, un ou une chef sucrée ou salée, qui émerge des participants. Et puis voilà, on a un fonctionnement où les rôles sont répartis d'une fois à l'autre et on se retrouve de 10h à 14h le jeudi une fois par mois à cuisiner, à préparer ensemble et à manger ensemble. Et voilà, en fait l'idée, c'est pas simplement de cuisiner, de manger ensemble, c'est vraiment de se rencontrer et puis de permettre aux personnes, comme je disais tout à l'heure, qui sont dans des phases de transition où beaucoup de choses tournent pas rond. Voilà. Et qu'à un moment donné, pouvoir s'exprimer à travers la cuisine, ça fait du bien. Et ça fait du bien à tout le monde, parce qu'on en profite tous. Voilà.
Je crois que tu es un exemple de bénéficiaire que tu aimes bien mettre en avant, qui vient d'Iran, qui est prof de français.
Oui, alors effectivement, je pense à cette personne, mais je pourrais parler de plein d'autres aussi, qu'on a rencontré à Sésame, qui arrive par la porte de l'accompagnement. Et puis en discutant avec elle, il s'avère qu'elle... cette personne a un passé très intéressant, puisqu'elle était prof de français en Iran. Il s'avère qu'on cherche un prof de français. Eh bien, voilà, on essaye de faire la rencontre des deux. Et aujourd'hui, cette personne est bénévole à la Maison Sésame. Mais c'est valable aussi, je pense, à une autre personne qui venait de Côte d'Ivoire et qui a œuvré aussi pendant pas mal de mois au FLE, à l'apprentissage du français. L'histoire fait que les parcours sont parfois compliqués. Et du coup, on perd trace de cette personne. Mais on a fait un bout de chemin ensemble. Mais je pense aussi, une personne du Venezuela qui vient très régulièrement nous animer des ateliers de danse parce que c'est sa compétence et c'est ce qu'elle sait faire. Et elle sait faire aussi plein d'autres choses.
Les projets de Maison Sésame ?
Alors le projet, et c'est assez intéressant de là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que je viens tout juste de faire la rencontre du réseau des tiers-lieux sur Lyon. Et je crois que l'enjeu, et c'est assez intéressant puisque ça rejoint aussi d'autres problématiques d'autres lieux, qui est finalement comment est-ce qu'on peut travailler cet ancrage de territoire. Au-delà de ce qui peut se vivre à l'intérieur du lieu, comment est-ce qu'on peut développer des interactions avec des acteurs d'un territoire. Et aujourd'hui, on en est là. Donc moi, en tant que salarié, j'essaye d'embarquer l'équipe bénévole, les acteurs de la Maison Sésame aussi dans cet esprit de tiers-lieu. Tiers-lieu, ce qui veut dire finalement comment est-ce qu'on est en lien avec la vie et les acteurs du territoire pour favoriser les interactions. Et c'est ce que voilà, partagent un peu mes autres collègues salariés des autres, coordinateurs des autres tiers-lieux.
John Caron, salarié référent de la Maison Sésame. Maison Sésame située 111 rue du 1er mars à Villeurbanne. Une journée porte ouverte est programmée le jeudi 6 juin à partir de 16h. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition, la dernière de la semaine.